le berceau de l'histoire. Jean-Pierre Constantin.
Les mésaventures d'Ounamoun l'Égyptien chez le roi de Byblos. C'est le premier roman de flibuste et de piraterie de l'histoire. Il date du XIe siècle avant notre ère. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un Égyptien parti chercher du bois sur la côte phénicienne. Et à travers ce roman, à travers ce récit, nous allons aborder un petit peu les relations complexes, parfois tendues et souvent assez intenses, entre la grande puissance de l'Antiquité, à savoir l'Égypte des pharaons, et les royaumes vassalisés de la côte syrienne, de la côte de l'Est de la Méditerranée, et en particulier le royaume de Byblos. Et pour parler de ce sujet, j'ai invité aujourd'hui Jimmy Dakash, qui est historienne, épigraphiste. Vous êtes spécialiste des langues sémitiques, en particulier le phénicien. Vous enseignez d'ailleurs les langues sémitiques dans la prestigieuse université de Yale aux États-Unis. Vous êtes de passage à Paris. Merci de venir nous voir à RFI.
Merci, bonjour.
Alors, ce roman, Les Mésaventures d'Ounamoun l'Égyptien chez le roi de Byblos, c'est une véritable histoire, enfin, c'est un vrai roman, ce n'est pas du tout un témoignage, ce n'est pas du tout quelqu'un qui veut écrire l'histoire. On était dans la fiction, dans l'imaginaire.
Oui, c'est cela. C'est une fiction qui est basée un tout petit peu sur la réalité quand même, parce que comme on va voir, ce qu'il va faire en... le monsieur égyptien qui va à Byblos, ce qu'il va demander, c'est ce que faisaient les Égyptiens, mais tous les personnages sont fictifs.
On écrivait des romans à l'époque, pour quoi faire ? Les gens lisaient, on les publiait, il y avait des livres. À quoi servait ce roman ?
En fait, c'était écrit comme un divertissement pour les gens. Et vous imaginez bien qu'à cette époque-là, tous les gens n'écrivaient pas ni ne lisaient, en fait. Et donc, c'était à l'oral. On imagine qu'il y a les gens qui sont installés dans une pièce ou dehors, s'il faisait beau, et il y a un orateur qui raconte l'histoire et les gens l'écoutent. Donc, voilà, c'est vraiment un conte où, pour divertir les gens, on va lire ce conte-là.
Et donc ce roman, il est très représentatif de l'histoire des relations entre l'Égypte et Byblos. Donc Byblos, c'est une ville qui existe toujours de nos jours, qui existe au Liban, c'est une ville libanaise, et qui avait donc son arrière-pays qui était très riche d'un matériau à l'époque extrêmement convoité, à savoir le bois de cèdre. Le bois de cèdre que les Égyptiens allaient importer de ce pays-là, et c'est ce qui a fait la fortune de Byblos. On va en parler, mais parlons un petit peu de ce texte, ce manuscrit, c'est donc un manuscrit sur papyrus qui a été découvert un peu par des méthodes du 19e siècle, c'est-à-dire des méthodes pas toujours très, très régulières. Et le manuscrit se trouve aujourd'hui à Moscou. Mais ce manuscrit est reconnu par tout le monde et donc il est daté du 11e siècle. Que raconte cette histoire ? Racontez-nous un petit peu l'histoire d'Ounamoun l'Égyptien. Qui est Ounamoun l'Égyptien ?
Donc, Ounamoun, il raconte son histoire à la première personne. Et il est un agent du temple d'Amon en Égypte. Donc Amon, c'est le grand dieu des dieux égyptiens. Et Ounamoun, il vient de Thèbes. Et il est envoyé par le grand prêtre d'Amon à Byblos pour prendre du bois pour construire la barque du dieu Amon. Et son voyage était un peu tourmenté. D'accord, il n'est pas arrivé comme ça à Byblos, non. Il est parti donc de la haute Égypte et à cette époque-là, donc l'Égypte était divisée en deux, la haute Égypte et la basse Égypte. La basse Égypte, c'est là où on a le delta du Nil. Donc lui, il vient de la haute Égypte. Il a été envoyé par le prêtre d'Amon de la haute Égypte de Thèbes.
Donc la haute Égypte, c'est le sud de l'Égypte, la basse Égypte, c'est le nord de l'Égypte, c'est bien ça ? Donc il part du sud vers le nord et ensuite il se dirige vers la Phénicie qui est encore plus au nord.
Voilà, mais il s'arrête d'abord en basse Égypte, donc au nord, à Tanis, qui est maintenant un site archéologique dans le delta du Nil, au nord-est de l'Égypte. Et il rencontre le gouverneur de cette ville, Tanis, qui s'appelle Smendès. Et Smendès lui prend les lettres d'Amon et les lettres du grand prêtre d'Amon, parce que en arrivant à Byblos, il faut donner des documents hein, pour montrer ce qu'il vient faire, qui l'envoie et tout ça. Et bien Smendès les a pris.
Ça, donc, il lui confisque ses lettres d'accréditation, en quelque sorte.
Voilà, c'est pas très très clair. Est-ce que c'est une vraie confiscation ? On ne sait pas, mais voilà, on sait qu'il prend les lettres. Et donc, Onamon part de Tanis, donc il prend un bateau, bien sûr, il va traverser la Méditerranée et il fait une première escale à Dor. Donc Dor, c'est maintenant en Israël, Tel Dor, c'est au sud d'Haïfa, à peu près, pas loin de...
C'est une ville ou un site archéologique ?
C'est un site archéologique, donc c'est un vrai tel archéologique, donc voilà, une petite colline.
Donc une première escale sur la côte, mais alors il est parti sans ses lettres d'accréditation.
Voilà.
Il a quand même tenté sa chance.
Oui. Mais il avait les cadeaux, parce qu'il vient avec des cadeaux aussi.
D'accord.
Voilà, des dons à donner à tous les rois. Bon, dans le texte, on ne dit pas roi, on dit prince. Mais voilà, on sait très bien que ce sont des rois. Mais par rapport à l'Égypte, ce sont des petits rois, donc ce sont des princes. Et la ville de Dor est nommée dans le texte la ville des Djeker. Les Djeker, c'est qui Bonne question. Bon, je me pose cette question tous les jours.
Donc c'est un peuple inconnu.
Oui, on pense que c'est possible que ce soit un des peuples de la mer.
Alors les fameux peuples de la mer, il faudra expliquer un tout petit peu s'il vous plaît. Les peuples de la mer, ce sont des peuples qui ont surgi comme ça de la Méditerranée. À cette époque-là, donc aux alentours du 11e, 12e siècle, avant Jésus-Christ, et qui ont semé le désordre et la désolation sur toutes les côtes. Ils ont même provoqué la destruction de certains royaumes, de certaines villes, dont le célèbre Ougarit, en Syrie aujourd'hui. Donc c'est un peu comme les Vikings, ils ont déferlé sur les côtes et ils ont tout détruit sur leur passage. Donc c'était des gens craints.
C'est cela. Mais voilà, on ne sait pas vraiment si les Djeker faisaient partie de ces peuples-là. C'est possible, mais voilà, ça reste une question. Donc, à Dor, une personne de son équipage, de l'équipage de Onamon, le vole. Il lui vole les cadeaux qu'il apporte au roi de Byblos. Donc, il est furieux, il va voir le roi de Dor et il lui dit... « J'ai été volé dans ton port. » Là, je cite le texte. « Tu es le prince de ce pays et donc tu es aussi son juge. Cherche mon argent. » Le roi répond « Es-tu sérieux ? Plaisantes-tu ? Si c'était un voleur appartenant à mon pays qui avait volé ton argent, je te le restituerais à partir de mon entrepôt jusqu'à ce que tu trouves ton voleur. Mais le voleur qui t'a volé, c'est le tien. Il appartient à ton navire. Passe quelques jours ici avec moi, je le chercherai. » Mais bon, il ne trouve pas cette personne-là et l'histoire, pour l'instant, s'arrête là.
Donc, il a perdu ses lettres d'accréditation, il a perdu le cadeau qu'il emmenait avec lui, et il va quand même tenter le coup et se rendre à Byblos.
Eh oui, il va continuer, parce que, voilà, Onamon veut arriver à Byblos. Donc, il attend quelques jours à Dor, et après, donc là, notre texte est un peu abîmé, donc on a des fragments qui manquent, et on sait qu'il est passé par Tyr. Tyr, c'est sur la côte libanaise, au sud du Liban maintenant. Mais là, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on voit Tyr, on voit le terme Tyr, et après, on voit que Onamon part à Byblos, mais pas avec ses bateaux, avec des bateaux de Djeker.
Ah donc, les Djeker lui ont prêté des bateaux pour continuer sa route jusqu'à Byblos. Alors, j'en profite pour quand même vous poser cette question. La navigation à l'époque, les Phéniciens étaient réputés pour être de grands navigateurs. La navigation se faisait le long des côtes. Ils n'allaient pas en haute mer. Ils longeaient les côtes, en fait.
Oui, c'est cela. Donc, c'est pour ça qu'il fait des arrêts à Dor, à Tyr. Parfois, on a Sidon et Byblos. Et même pour arriver à Ougarit, par exemple, on a un texte envoyé du roi de Tyr au roi d'Ougarit, donc Ougarit qui est à côté de Latakié maintenant en Syrie.
Beaucoup plus au nord, oui.
Voilà. On a une lettre écrite en ougaritique, ça veut dire c'est un alphabet cunéiforme écrit avec des clous. On est au bronze récent, entre 1300 et 1200 avant Jésus-Christ, et il lui dit « Tes bateaux qui allaient en Égypte sont échoués chez nous. » Donc voilà, on sait qu'il passait vraiment par toutes ces villes ou royaumes. On a un autre chemin, c'est à travers Chypre. Chypre, comme c'était au milieu de la Méditerranée, et ça l'est toujours, donc c'est...
La Méditerranée orientale.
Hein, voilà, oui. Et donc, on pouvait s'arrêter à Chypre et continuer de Chypre. Mais c'était surtout pour aller en Anatolie, ça veut dire la Turquie maintenant, donc dans le monde hittite.
D'accord, revenons à notre ami Onamon. Donc, il est transporté par des Djeker, c'est ça? Donc les Djeker, dont on ne sait pas très bien qui ils sont, vers Byblos.
Voilà. Mais à bord, il décide de... Je vais utiliser le terme « voler », mais il n'a pas volé. Il a emprunté de l'argent, des Djeker, sans qu'il le sache.
Bon, vous voulez vraiment me faire croire ça?
Donc, il prend l'argent en disant « Attendez, je prends votre argent, mais c'est juste le temps qu'on me trouve le voleur à Dor et je vous rends l'argent après. »
D'accord.
Mais ils n'ont rien fait. Hein. Il est arrivé à Byblos. Et là, il arrive à Byblos et il s'installe au bord du port de Byblos. Il installe une tente et il vient avec la statue d'Amon. Donc, même s'il a perdu les cadeaux, les bateaux, les papiers, tout ça, il avait quand même la statue d'Amon. Donc, la statue du grand dieu Amon. Il s'installe et le roi de Byblos, il attendait que le roi de Byblos vienne... l'accueillir, il vient pas. Il envoie un messager en lui disant « Éloigne-toi de mon port ». Et ce qui est intéressant, c'est que le roi de Byblos s'appelle Zakhar Baal. Zakhar Baal n'est pas connu comme roi de Byblos, mais il est connu comme roi d'Amourou. Et Amourou, c'est un royaume qui a la frontière avec le royaume de Byblos. Et ils étaient en guerre au bronze récent. Et donc, il lui dit « Éloigne-toi de mon port. » Et Onamon était « Où dois-je aller? Si tu trouves un navire pour me transporter, ramène-moi en Égypte. » Et Onamon est resté à Byblos pendant un an. Les 29 premiers jours, il était là sans que le roi le voie ou le réceptionne. Et donc...
Il a quand même reçu après.
Il a accepté de le recevoir grâce au dieu Amon. Parce que le roi Giblite, donc de Byblos, était en train de prier avec ses grands prêtres. Et Amon, le dieu Amon, transporte un grand prêtre et il en extase. Et le grand prêtre dit, donc, comme si c'était Amon qui parlait, « Reçois ce messager, reçois Onamon, il vient au nom du dieu Amon et tu lui donnes ce qu'il t'ordonne. » Et donc là, Le roi était, oh d'accord, ok, c'est Amon, bon, ok, je vais accepter, voyons ce monsieur. Mais il lui reproche, donc il le reçoit, il le voit, mais il lui reproche d'arriver sans lettre, sans un navire et sans les cadeaux. Voilà, il lui dit, mais t'es qui, tu viens faire quoi, comment tu veux que je croie tout ce que tu me racontes là? Il lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Donc Onamon lui dit, je suis venu pour du bois, pour la grande barque d'Amon, le roi des dieux. Ton père l'a procuré, ton grand-père l'a procuré, et tu le procureras également. Et le roi lui dit, c'est vrai, c'est ce qu'on a fait avant, les rois giblites avant moi, donc giblites de Jbel, j'utilise le terme
donc
giblite.
De Byblos, oui. Donc les rois de Byblos.
Il lui dit, mais si tu me donnes quelque chose pour que je le procure, alors, je te procurerai ce bois. Onamon lui raconte qu'il a été volé et que voilà, les lettres sont avec Smendès en Basse-Égypte, les bateaux, on ne sait pas trop, et qu'il a été volé, les cadeaux étaient volés à Dor. Donc, le roi de Byblos ajoute, et ça c'est très intéressant, ça c'est même pour l'histoire, et l'histoire vraie, c'est intéressant. Il lui dit, si le seigneur de l'Égypte était le maître de mes biens et moi son serviteur, il n'aurait pas envoyé de l'argent et de l'or. Je ne suis pas ton serviteur ni le serviteur de celui qui t'a envoyé. Quand je pousse un cri vers le Liban, alors le ciel s'ouvre et les troncs d'arbres gisent ici,
le Liban,
au bord de la mer. Le Liban, c'est le mont Liban.
Donc c'est la montagne, l'arrière-pays de Byblos, voilà. Où il y a la fameuse forêt des cèdres.
Oui. Et donc là, on montre que Byblos, à cette époque-là, n'était pas le client, ça veut dire le vassal du pharaon. Ça veut dire qu'ils avaient une autonomie tu veux quelque chose de chez moi, bah, tu me donnes quelque chose. Je ne t'offre rien.
Et ça correspond à la réalité historique? C'est-à-dire qu'on est à une période où le pouvoir égyptien est affaibli, où les petits royaumes qui étaient vassalisés avant se révoltent ou relèvent la tête?
Oui, c'est une période entre les deux, en fait. L'Égypte commence à perdre son pouvoir, mais la Syrie et la Babylonie commencent à avoir du pouvoir. Donc, les petits royaumes sur la côte levantine ont eu une petite autonomie avant l'arrivée des Assyriens et ensuite les Perses. Donc ils ont bien joui de ce petit laps de temps pour être autonomes.
Est-ce qu'il a eu ce qu'il voulait, Onamon?
Bah oui, finalement, il a tout eu parce qu'il est malin et il dit « Le Liban n'appartient pas et l'Égypte n'appartient pas au roi de Byblos, ni à Byblos, ni à toi ou moi, non. Le Liban appartient et les cèdres appartiennent au dieu Amon. Donc, si tu donnes ce que je t'ordonne, d'ailleurs c'est Amon qui le dit et pas moi, et tu l'as fait attendre 29 jours, tu ne m'as pas fait attendre moi, tu as fait attendre Amon. Donc, si tu fais ce que j'ordonne et ce qu'il ordonne, alors tu vivras, tu seras en santé et tu seras agréable à tout ton pays et à tout ton peuple. » Voilà, le roi de Byblos s'est dit, vivre longtemps, être agréable, oui, pourquoi pas. Bon, allez, ok, j'envoie un messager à Smendès pour qu'il me ramène les lettres et je veux toute une liste de cadeaux. Donc, qu'on me ramène tout ça, et moi, je vous donne le bois de cèdre. Et il a envoyé que 7 troncs d'arbres en guise de bonne volonté. Donc, il reçoit tout et il est hyper content. « Oh, cool, j'ai tout maintenant, je peux envoyer. » Donc, il ordonne 300 hommes et 300 bœufs pour aller abattre les arbres. On a attendu, parce qu'il y a un an quand même, on a attendu l'hiver. On n'a rien fait pendant l'hiver. Et en été, ils ont apporté les troncs d'arbres au bord de la mer. Et là, Unamon s'apprêtait à partir avec. Eh ben non, le pauvre. Les tchèquers des bateaux, il leur a volé, hein, il a pris leur argent. Eh ben, ils sont revenus. Et ils voulaient sa tête. Et ils criaient, emprisonnez-le et ne laissez aller au pays d'Égypte aucun de ses bateaux. Alors, il s'assoit, Unamon, et se met à pleurer. Ils vont voir le roi de Byblos et lui disent, bah, voilà, on veut cette personne-là. Et le roi leur dit, je ne peux pas arrêter le messager d'Amon dans mon pays. Laissez-moi le renvoyer et vous le poursuivrez pour l'arrêter.
Ah, il l'a quand même livré, enfin, sans le livrer directement.
Voilà.
un vrai fourbe, le roi de Byblos.
Oui, mais de toute façon, en fait, Unamon, là, on ne sait pas ce qui se passe pour de vrai, parce qu'il prend la mer et il est rejeté par une tempête à Chypre. Et là, il voit la reine de Chypre. Et le manuscrit s'interrompt ici.
Ah, on ne finit pas l'histoire. Non. Vous faites comme Sherazade, ma chère Jimmy. On ne finit pas l'histoire. Donc, on ne sait pas ce qui est arrivé à Unamon à la fin, si ça s'est bien fini. On m'avait dit que l'histoire finissait bien. Non, on ne sait pas.
Voilà. C'est à votre imagination maintenant.
Le berceau de l'histoire.
Bon, on va dire que ça se finit bien quand même. Donc c'est un roman, c'est bien romancé, c'est un roman à rebondissement qui date du XIe siècle avant Jésus-Christ. Parlez-nous un petit peu quand même de ces relations assez complexes, vous en avez parlé un peu, mais allons plus en détail. Byblos était le seul royaume phénicien qui vendait comme ça son bois à l'Égypte. Le bois en Égypte, on le voulait pour plusieurs choses. On le voulait, le bois de cèdre évidemment, on le voulait pour construire des temples, pour construire des édifices. On le voulait pour faire des bateaux, y compris les bateaux sacrés. On l'utilisait aussi parce qu'on extrayait la résine du bois et on l'utilisait dans la momification. C'était donc un produit important. Et les gens de Byblos, les habitants de Byblos, ont exploité cette forêt des cèdres, une exploitation, on peut appeler ça massive. Ils ont carrément détruit la forêt, parce que ça a duré longtemps, cette histoire. Byblos a exploité son arrière-pays pendant plusieurs siècles, même plusieurs millénaires.
Millénaires,
oui. Donc sur plus de 2000 ans, c'est ça?
Donc sans doute, ça a commencé au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc on est dans les 3000, entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. Et par exemple, on sait très bien, parce que là on a un texte qui n'est pas mal. Si vous voulez, je peux vous lire un petit passage de ce texte parce que c'est sympa. C'est ça raconte, le texte est récent, mais ça raconte l'histoire du règne du pharaon Pépi II. Donc là, on est dans la deuxième moitié du troisième millénaire. Et le texte dit, maintenant qu'on ne fait plus de voyage par mer vers Byblos, par quoi remplacerons-nous pour nos momies le cèdre dont l'importation permettait de fabriquer les cercueils des prêtres et dont la poix, donc la résine, servait à embaumer les hauts personnages. Donc cela montre que, déjà, donc là c'est un texte sympa,
Année à peu près?
Donc là on est entre 2500 et 2200.
Avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ. Et donc là cela montre que on avait déjà cet échange. Donc, ils allaient à Byblos récupérer du bois, mais en échange, on avait des cadeaux. Parce que là, par exemple, du 19e et 18e siècle, donc là, on est au début du deuxième millénaire, on a trouvé à Byblos des tombes royales, surtout de deux rois, Abishemou et Ibshemou Abi, avec plein d'objets égyptiens et pas égyptisants. Ça veut dire qu'ils viennent de l'Égypte et qu'ils ne sont pas fabriqués à la façon égyptienne au Liban ou à Byblos. Donc on a un énorme trésor avec des objets précieux à Byblos. Donc ça, c'est pour le début du deuxième millénaire. Là, au bronze récent, ça veut dire à partir de 1500, là on le sait, les rois de Byblos deviennent des clients des pharaons, donc ça veut dire des vassaux. Et nous avons un roi, Ribadda, lui il est très connu parce qu'il a envoyé au moins 60 lettres au pharaon, Akhenaton. Donc il lui envoie des lettres en disant « je suis malade ». Tu ne m'aides pas, tu n'aimes plus ton serviteur, je suis attaqué par l'ennemi, et l'ennemi c'est Amourou, donc le royaume d'Amourou dont on a parlé, et tu ne réponds pas à ton serviteur.
Alors ce royaume de Byblos, c'était un peu le Qatar de l'époque, ils ont dû faire des fortunes incroyables en vendant ça aux Égyptiens. Ils ne pouvaient vendre les cèdres qu'aux Égyptiens d'ailleurs, parce que les Égyptiens étaient les seuls à embaumer leurs momies.
Donc, oui et non, parce qu'on sait par des textes d'Ebla, donc là on est en Syrie, non loin d'Alep, un royaume du 3e millénaire avant Jésus-Christ, on savait qu'ils achetaient du bois de Byblos.
Aussi.
Aussi. Donc ce n'était pas uniquement l'Égypte. L'Égypte, c'était un des meilleurs clients, si vous voulez, mais il y en avait d'autres aussi.
Très bien, voilà. Il ne reste plus qu'à imaginer une fin à ce fameux roman d'Ounamon. Peut-être qu'on va y arriver. Jimmy Dakash, merci beaucoup d'être passé nous voir à RFI.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Vanessa Rovinsky. Merci de l'avoir suivie et à très bientôt sur RFI.